poursuit. Ouais. Donc je donne la parole à Abir Kreffa, qui va nous parler des militantes féministes dans l'espace tunisien des mobilisations. Une vingtaine de minutes.
Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord, et merci beaucoup aux organisatrices du colloque. Alors, avant d'aborder la question des féminismes en révolution et de la réappropriation spatiale par les femmes en situation révolutionnaire, je vais revenir très brièvement sur la situation avant 2011, parce qu'elle n'est pas nécessairement connue de tout le monde. L'univers associatif et partisan en Tunisie avant décembre 2010 était pratiquement monopolisé par l'ancien parti au pouvoir, le parti dit Rassemblement Constitutionnel Démocratique. Il était aussi quasi monopolisé par les associations qui lui étaient liées. L'engagement militant dans les oppositions était extrêmement coûteux et risqué. Et les rares mobilisations qui étaient autorisées ne portaient pas sur la politique interne, elles portaient plutôt sur des enjeux dits internationaux ou régionaux, comme le soutien à la question palestinienne ou contre les guerres en Irak. Et d'ailleurs, même ces mobilisations étaient très encadrées par l'ancien parti au pouvoir. Alors, ce qui change avec la révolution, c'est que l'événement s'accompagne d'une prolifération d'associations et de partis politiques qui réclament des changements. Le champ associatif comme le champ partisan s'est beaucoup pluralisé et libéralisé. Il s'est beaucoup pluralisé et libéralisé à la faveur d'un changement législatif, puisque dès février 2011, l'un des décrets sur les associations remplace le régime dit de l'autorisation préalable par le régime de la déclaration pure et simple, c'est-à-dire que dorénavant, les militantes et militants associatifs ne sont plus obligés de demander l'autorisation auprès du ministère de l'Intérieur pour créer une association, mais notifient simplement à une administration beaucoup plus décentralisée d'ailleurs par rapport à ce ministère, donc la création d'une association. Si bien que le pays comptait uniquement deux associations qui se réclamaient explicitement du féminisme avant 2011, qu'on en décompte à peu près 200 aujourd'hui, si l'on en croit les chiffres publiés par le Centre d'information et de recherche sur les femmes. C'est un centre qui est très lié au ministère de la femme. Donc ce sont aussi des chiffres, évidemment, à prendre avec des pincettes, dans la mesure où il s'agit là d'une production par les institutions officielles. Donc, je vais décrire quand même très brièvement ce qu'étaient ces deux associations avant 2011, parce qu'elles vont par la suite jouer un rôle important dans la genèse d'un certain nombre de mobilisations. Les deux associations dont il s'agit, l'Association tunisienne des femmes démocrates et l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement, ont été créées au début des années 90 par des militantes qui appartiennent à la même génération environ. Les militantes de ces deux associations sont nées environ après l'indépendance et pratiquement toutes avaient fait l'apprentissage du militantisme d'abord dans les structures syndicales et partisanes dites de gauche, qu'elles soient radicales ou modérées. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler la génération de 1978, celle qui a connu la grève générale de 1978, au cours de laquelle le parti au pouvoir, les élites au pouvoir avaient eu extrêmement peur quant à leur position dans le champ. Ces deux associations vont jouer un rôle important par la suite dans l'impulsion d'un certain nombre de mobilisations. Parmi les associations qui existent aujourd'hui, certaines sont spécialisées sur des axes très précis. Certaines sont spécialisées sur la question dite des droits sexuels et corporels des femmes. Donc là, on retrouve un peu le vocabulaire de l'ONU, des organisations internationales qui promeuvent la question dite de genre. Certaines sont spécialisées sur la promotion de la représentativité politique des femmes. Par les quotas, par la parité. D'autres sont spécialisés sur la lutte contre les violences sexistes. Nouveauté radicale par rapport à 2011, parmi tout cela, c'est qu'il y a désormais aussi des associations dites LGBT, donc lesbienne, bisexuelle, transsexuelle et gay pour le G, dont l'une est non mixte, hein, qui rassemble donc exclusivement des femmes dites LBT. Donc c'est vrai que la plupart des associations sont a priori spécialisées sur des axes de lutte précis, sur des causes précises, mais les militantes féministes œuvrent très très souvent en réseau, sous la forme de coordination. Et d'ailleurs, il y a un terme qui a beaucoup été utilisé depuis 2011, c'est le terme de tanseria. On a découvert ce que sont les tanseria en Tunisie, c'est-à-dire les coordinations entre associations. Donc, entre 2011 et la situation actuelle, le pays a bien sûr connu de nombreuses mobilisations collectives où les enjeux de genre et de sexualité ont été explicites et centraux, les mobilisations pour la parité, contre les violences sexuelles, contre les femmes aussi, avec un procès qui a été considéré comme emblématique par les féministes, celui de deux policiers qui ont violé une jeune femme en 2014 dans la banlieue nord de Tunis. Et donc là, elles ont fait de cette mobilisation un procès emblématique à la fois donc, contre les violences policières et contre les violences sexuelles. On a eu également beaucoup de mobilisations pour l'inscription de l'égalité entre les sexes dans la Constitution, donc des mobilisations pour les droits juridiques. Et de façon générale, l'événement révolutionnaire a rendu pensable et possible des causes, des revendications, mais aussi des pratiques qui étaient complètement impensables et improbables en temps ordinaire. Le fait, par exemple, si on quitte Tunis pour aller vers les régions de l'intérieur, à partir de décembre 2010, et notamment de la grande répression policière qui a eu lieu, ce sont des femmes qui ont pris la tête des cortèges funèbres transportant les victimes de la répression. Donc, non pas suite à une conscience de genre ou une conscience féministe, mais plutôt pour protéger les hommes de leur famille qui étaient jusque-là les seuls visés par les balles. Et donc, elles ont pris la tête de ces cortèges funèbres, alors que d'habitude, seuls les hommes vont au cimetière. Fait aussi inédit, les espaces urbains la nuit ont été relativement mixtes, contrairement à d'habitude, hein, je dis bien la nuit, hein, parce qu'en jour, c'est pas du tout le cas. C'est le cas de la place de la Casbah en janvier et février 2011, où les femmes et les hommes engagés ont revendiqué d'abord la formation d'un gouvernement sans ministre du parti hégémonique, sans ministre de Ben Ali. Il et elle ensuite revendiqué la dissolution des structures du parti hégémonique, puis des élections en vue d'une assemblée nationale constituante. Cela a été aussi le cas d'une autre grande place à Tunis, la place du Bardo, à proximité de laquelle se situe l'Assemblée, où un sit-in de plusieurs mois a eu lieu pour réclamer la démission du gouvernement. Les administrations, les usines et les universités ont aussi été massivement occupées par des femmes pendant des grèves et des mobilisations autour de l'amélioration des conditions de travail, autour de la dénonciation du harcèlement sexuel aussi, et de l'arbitraire administratif. Plus généralement, les situations révolutionnaires sont des moments de défatalisation relative de l'ordre social et politique, donc là je reprends l'expression à Pierre Bourdieu, de défatalisation, et par conséquent on peut penser qu'elles sont aussi un moment propice à une dénaturalisation de l'ordre des genres et des sexualités, hein, de l'ordre hétérosexué. Pour aborder la question des féminismes, du genre dans les mobilisations et des réappropriations spatiales, donc c'est donc cette hypothèse que j'ai mobilisée dans mes recherches, et pour vous exposer un certain nombre de résultats des enquêtes que j'ai faites ou auxquelles j'ai participé, je vais partir de trois idées reçues que je soumettrai ensuite à l'épreuve du terrain. La première idée reçue, c'est la grille d'interprétation dominante en termes de clivage idéologique entre islamistes d'un côté et progressiste ou moderniste de l'autre. Où on considère que les islamistes seraient par nature fondamentalement opposés aux droits des femmes, alors que les progressistes, les laïcs ou les modernistes, quelle que soit la manière dont on les appelle, y seraient plus favorables. Alors, c'est une grille de lecture qui est beaucoup mobilisée dans les médias, qui est aussi beaucoup mobilisée dans le champ politique en Tunisie, où la question des femmes fait l'objet de stratégies de distinction entre les partis politiques. Et c'est une grille de lecture qui va de pair avec une représentation extrêmement misérabiliste des militantes des partis islamistes, qui seraient aliénées, inféodées aux hommes de leur parti, et qui ne pourraient pas avoir donc de revendications autonomes. Ce qui m'amène à une petite précision méthodologique. Je me suis principalement intéressée dans mon enquête aux militantes et aux associations qui se réclament explicitement du féminisme, mais on ne peut pas comprendre les dynamiques des mobilisations sans s'intéresser de façon plus générale à ce que Laure Bérény appelle l'espace de la cause des femmes, qui ne se réduit pas à ces associations et aux militantes qui s'identifient explicitement comme féministes. Dans la lignée de travaux de Laure Bérény, j'analyse les mobilisations de façon multisituée à l'intérieur et à l'extérieur des institutions, où les mobilisations protestataires de rue et radicales forment donc une partie seulement du mouvement des femmes. La deuxième idée reçue, c'est le caractère spontané et nouveau des mobilisations féministes, que je vais soumettre à l'épreuve empirique en prenant l'exemple de deux mobilisations qui ont eu le genre et les sexualités pour enjeu. La mobilisation de soutien à Amine Asbouri d'un côté, dont vous avez certainement entendu parler parce que son affaire a été beaucoup médiatisée, et les engagements pour la dépénalisation de l'homosexualité de l'autre, qui deviennent extrêmement visibles à partir de 2012-2013. Ces deux mobilisations ont pour intérêt de mettre en évidence des tensions et des réappropriations intergénérationnelles en même temps. Ces mobilisations ont l'intérêt, ont un intérêt scientifique parce que elles m'amènent à mettre en évidence à la fois l'effet des structures dormantes, c'est ce que Werther Taylor mobilise pour l'analyse des mobilisations féministes entre ce qu'on appelle les deux vagues, quand elle montre que on ne peut pas parler réellement de plusieurs vagues féministes, dans la mesure où il faut prendre en considération les réseaux dormants qui ont existé entre les deux. Donc ce que je fais constamment dans ce travail, c'est lier à la fois des réseaux, des répertoires d'action et des causes préexistantes à l'événement, sans sous-estimer les effets de l'événement proprement dit. Donc, en montrant que les mobilisations n'émergent pas dans un vide structurel et structural, mais que dans le même temps, l'événement produit aussi des effets propres, différenciés selon le genre et les générations. La troisième idée reçue, c'est le fait que la fin de la période révolutionnaire signifierait le retour à un ordre antérieur du genre et des sexualités, où rien n'aurait changé sur le plan des mobilisations, sur le plan juridique et sur le plan des pratiques. Alors, c'est vrai que quand on s'en tient, à la composition sexuée des institutions, des institutions représentatives, de l'Assemblée, des ministères, etc., les proportions relatives des hommes et des femmes n'ont pas singulièrement changé entre l'avant et l'après 2011, malgré le vote de lois contraignantes, en Tunisie notamment, le vote de la loi, de la parité, à partir d'avril 2011, pour les élections de l'Assemblée constituante qui ont eu lieu en octobre 2011. C'est vrai aussi quand on regarde les textes juridiques, c'est le cas du Code du statut personnel qui n'a absolument pas du tout été réformé et dans lequel les discriminations légales envers les femmes dans la famille demeurent. C'est le cas aussi du Code pénal où les pratiques sexuelles déviantes sont restées définies de la même façon avant et après 2011. Cependant, il faut, à mon avis, prendre un peu des distances par rapport à la grille de lecture purement institutionnelle et juridique pour s'intéresser à la négociation et à la renégociation des rapports de genre au sein des mouvements protestataires et à la faveur des mobilisations collectives. Donc je vais aborder ces trois questions à partir de trois terrains de recherche qui ont constitué mes terrains pendant les deux dernières années depuis septembre 2014. Le premier terrain qui m'a le plus occupé aussi, c'est une enquête par immersion, une enquête ethnographique dans des associations féministes et dites LGBT, faite par observation participante et entretien, formelle et informelle. Enquête pendant laquelle j'ai accompagné les militantes et militants dans leurs activités associatives, mais aussi leurs activités extra-associatives, pendant les soirées, mais aussi de façon plus générale, j'ai partagé leurs loisirs, j'ai passé des vacances avec eux et avec elles, si bien que j'en ai beaucoup plus appris pendant ces moments informels que pendant les moments de travail militant proprement dit. Par ailleurs, j'ai fait une série d'entretiens avec des militantes du parti islamiste Ennahda et des syndicalistes femmes de l'UGTT. Donc l'UGTT, c'est la principale organisation syndicale tunisienne qui était la seule à exister avant 2011. Entre-temps, le champ syndical s'est relativement pluralisé, mais c'est quand même une organisation qui reste extrêmement centrale et dominante, dans laquelle il y a à peu près plus de 500 000 adhérents, ce qui, pour une population d'une dizaine de millions d'habitants, est très conséquent. C'est aussi une organisation qui a joué un rôle central dans la contestation sociale en 2010-2011, notamment en nationalisant le mouvement de protestation, qui était d'abord parti des régions de l'intérieur, pour organiser des grèves et progressivement des grèves générales sur le littoral, et notamment à Sfax, le 12 janvier 2011. C'est la grève générale dans cette ville qui est la capitale économique du pays, a vraiment été un tournant dans le mouvement révolutionnaire. C'est une organisation qui est dotée d'une grande légitimité historique et politique, dans la mesure où elle a aussi joué un rôle important dans le mouvement national. Et de façon paradoxale, par rapport au parti islamiste Ennahda, c'est une organisation qui se situe à gauche du champ politique, qui est plutôt anti-islamiste, mais le plafond de verre y reste beaucoup plus important que dans le parti islamiste. C'est une enquête comparative par entretien auprès des militants d'Ennahda et des syndicalistes femmes de l'UGTT, qui permet de déconstruire ces oppositions idéologiques pour mettre au jour la manière dont les rigidités organisationnelles et les cultures organisationnelles contribuent à l'éviction des femmes, des postes à responsabilité, et que cela permet d'expliquer des choses beaucoup plus que par les oppositions idéologiques. La troisième et dernière enquête que j'ai faite, c'est une enquête par observation et entretien, conduite en binôme avec une doctorante du centre Maurice Elvax, Sarah Barrière, qu'on a faite sur une mobilisation pour l'emploi dans la région de Kasserine en janvier et février 2016. C'est une enquête très récente, où on a observé une mobilisation multisituée sur plusieurs sièges des autorités politiques locales, au siège de la délégation de la ville de Kasserine. Donc le siège de la délégation, c'est un peu l'équivalent du siège régional, mais aussi au siège d'autorités beaucoup plus locales, qui serait un peu l'équivalent des mairies, des sièges municipaux. Donc je vais répondre un petit peu à ces trois questions en prenant quelques exemples à chaque fois. Pour ce qui est des clivages idéologiques et de leur pertinence ou pas pour expliquer les mobilisations, je vais l'illustrer à travers la mobilisation pour la représentativité numérique des sexes, dite pour la parité, en montrant que l'inscription de la parité dans le code électoral, d'abord en février 2011, puis en janvier 2014, ne peut pas être expliquée si on ne prend pas en considération des mobilisations multisituées, à la fois conduite par des femmes, par des militantes qui se réclament comme des féministes, mais aussi par d'autres qui ne s'identifient pas nécessairement comme telles. Alors, comme je l'ai déjà dit, avant 2011, l'espace associatif féministe était le fait pratiquement de deux associations uniquement autonomes par rapport au régime, l'ATFD et l'AFTURD. L'espace associatif féminin était beaucoup constitué en fait par ce qu'on appelait l'UNEFT, l'Union nationale de la femme tunisienne, dont les militantes étaient très proches de l'ancien parti au pouvoir, soit parce qu'elles avaient des liens de parenté avec des militants du parti, soit parce qu'elles militaient elles-mêmes parallèlement au parti. Pour ce qui est de l'AFTURD et de la TFD, elles étaient considérées comme les deux associations les plus radicales avant 2011, et ce qu'elles exigeaient, c'était la fin des discriminations légales dans le couple et la famille, en matière de mariage, notamment pour que le mariage d'une musulmane avec un non-musulman soit autorisé. Elle revendiquait aussi l'abolition des discriminations en matière d'héritage et la fin du privilège masculin. Enfin, en matière de tutelle parentale, en faveur du partage de la tutelle entre les mères et les pères. Ce qu'elle revendiquait aussi d'emblée dès l'avant 2011, c'est la mise en place de dispositifs contraignants de quotas pour promouvoir donc l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Le tout dans le cadre de la libéralisation du régime, de la libéralisation du régime politique et du champ associatif, puisqu'elle considérait que les droits des femmes ne pouvaient pas être promus sans les libertés collectives. Ce sont ces deux organisations qui vont initier les manifestations, les mobilisations féministes qui vont avoir lieu dans l'immédiat après 2011, dès le départ de Ben Ali en janvier 2011, puis en mars 2011. Et fait nouveau, en 2011, elles vont entrer dans une institution qui va jouer un rôle important dans la définition des règles du jeu politique de la transition, qui est la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. C'est cette instance qui va écrire le code électoral. Et c'est au sein de cette instance qu'un certain nombre d'entre elles vont se mobiliser pour inscrire la parité dans le code électoral. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps où ces féministes qui étaient dans l'opposition au régime entrent dans les institutions, celles qui étaient dans l'institution, les militantes de l'UNEFT, elles se retrouvent orphelines de leur parti politique qui est extrêmement décrié et délégitimé à ce moment-là. Mais ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rejoindre les mobilisations féministes plutôt dans l'espace protestataire de la rue, en soutenant les mobilisations pour la parité, donc dans la rue, sans coordination évidente avec les premières, mais avec des figures de militantes qui ont été les chevilles ouvrières de ces mobilisations et qui ont un peu circulé entre les deux organisations avant 2011. Donc elles se mobilisent à l'extérieur de la haute instance, en incitant notamment les femmes à signer des pétitions pour la parité, à organiser des manifestations, des mobilisations collectives protestataires de rue. Parallèlement, les militantes du parti islamiste se mobilisent aussi à l'intérieur de leur parti à partir de février 2011, en faisant valoir notamment leur contribution à la survie de l'organisation clandestine sous Ben Ali. Dans la mesure où, quand les militants hommes étaient en prison, ce sont beaucoup les femmes, les filles, les sœurs qui ont organisé les réseaux de solidarité pour les prisonniers, qui ont assuré la survie économique de leur famille, la survie matérielle, de façon très simple. Il y a plus précisément deux militantes islamistes qui ont joué un rôle moteur dans cette mobilisation. Malik Azorlami, qui est une ancienne militante de l'UGTE, donc le syndicat islamiste étudiant qui était dominant dans les campus universitaires dans les années 80, et une autre figure importante, Mahrzi Al-Arbidi, qui est franco-tunisienne et qui deviendra par la suite la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui avait l'habitude de s'engager en France dans des réseaux féminins et ou féministes pour la paix et pour l'environnement notamment. Donc, l'inscription de la parité dans le code électoral apparaît clairement comme la convergence de plusieurs mobilisations situées. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver également en 2013-2014 à l'intérieur même de l'Assemblée, où des militantes appartenant à des familles politiques rivales, donc des députés appartenant à des familles idéologiques rivales, vont collaborer entre elles pour œuvrer en faveur de l'article 46 pour les droits des femmes, donc l'article 46 qui stipule l'égalité entre les citoyennes et les citoyens, qui incite l'État à se mobiliser contre les violences faites aux femmes et pour la promotion de la parité. S'agissant de la deuxième question, des tensions et réappropriations intergénérationnelles, donc entre les différentes générations féministes, plutôt que mobiliser le cas d'Amina, je vais m'appuyer sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité qui fait son irruption dans le débat public à partir de 2011. Alors, s'agissant du rapport qu'entretiennent les féministes dites historiques à cette question, si je résume un petit peu rapidement, j'en ai parlé plus brièvement avant-hier, c'est que elles ont été plutôt réfractaires à la politisation de la question environ jusqu'à 2014. Elles ont été réfractaires à l'inscription de la dépénalisation de l'homosexualité dans l'agenda des associations. Mais à partir de 2014, il y a plusieurs choses donc qui expliquent que c'est à ce moment-là qu'elles vont le faire. C'est que entre-temps, il y a eu l'émergence d'un mouvement LGBT organisé. Entre-temps, la constitution a été votée et donc du coup, elles ont pu un petit peu souffler entre guillemets après avoir inscrit l'égalité entre les citoyennes et les citoyens dans la constitution. Mais surtout, ce changement a eu lieu parce que des militantes LGBT ont fait pression à l'intérieur des organisations féministes dites historiques pour inscrire cette question à l'ordre du jour. Ce qui avait, le changement important depuis 2011, c'est que on a une nouvelle génération de féministes qui ont été fortement politisées et socialisées pendant l'événement. Des féministes qui avaient entre 15 et 25 ans à ce moment-là, qui étaient en lycée ou qui faisaient leurs études universitaires, qui appartiennent plutôt aux classes moyennes ou à la bourgeoisie, et qui ont une forte disponibilité biographique de par leurs conditions matérielles. Donc elles ont à la fois des ressources culturelles et politiques, mais aussi du temps pour s'engager donc dans les différentes mobilisations. Et ce sont elles qui vont inscrire la dépénalisation de l'homosexualité à l'agenda des associations féministes en opérant ce que Lilian Mathieu appelle un cadrage cognitif, c'est-à-dire en s'appuyant sur des textes qui font référence pour les féministes, la CEDAW notamment, dont elle critique une lecture hétérocentrée faite par les générations précédentes. Elles vont aussi s'appuyer sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui constitue pour les associations historiques un axe majeur de leur intervention. Donc c'est à la fois au nom de la CEDAW et de la lutte contre les violences faites aux femmes qu'elles inscrivent l'abrogation donc de la criminalisation des relations entre personnes de même sexe à l'agenda des associations. Je passe très rapidement au dernier axe que je comptais aborder. Est-ce qu'on peut dire que la désectorisation, pour reprendre le vocabulaire de Michel Daubry, est-ce qu'on peut dire que le retour à une conjoncture ordinaire, c'est le retour à ce qui préexistait avant 2011? Pour l'illustrer, je vais m'en tenir au terrain qu'on a fait avec Sarah Barrière dans la région de Kasserine, en faisant une petite comparaison entre deux sites, entre une mobilisation qui a eu lieu au siège régional de la ville, à Kasserine, et une mobilisation qui a eu lieu dans une ville située à une quarantaine de kilomètres du siège régional qui s'appelle Sbitl. entre lesquelles il y a eu des différences importantes. Des différences d'abord s'agissant de la composition socio-démographique des protestataires. À Kasserine, la mobilisation a été le fait de diplômés du supérieur, mais aussi de non-diplômés, alors qu'à Sbit, la mobilisation a été principalement organisée et encadrée par l'Union des diplômés chômeurs, hein, si bien qu'on a eu une homogénéisation des protestataires beaucoup plus importante à Sbit. L'autre différence importante, en termes d'arrangement des sexes sur les lieux de la mobilisation, donc sur les lieux des sit-in, c'est qu'à Kasserine, le siège de la délégation a été occupé par des hommes et des femmes, de jour comme de nuit, alors qu'à Sbit, là, en revanche, les femmes qui participaient à la mobilisation de jour rentraient systématiquement à peu près au moment du coucher du soleil. Et autre différence importante, à Kasserine, pendant la mobilisation, on a eu l'émergence de figures charismatiques féminines locales, alors qu'à Sbit, là, ce sont des hommes hein, qui monopolisaient les postes les plus visibles dans la mobilisation. On a donc là des différences contre-intuitives, en quelque sorte, hein, puisque à Kasserine, alors que le recrutement est beaucoup plus populaire et moins diplômé, la division sexuée du travail est moins défavorable aux femmes qu'à Sbit, là où les mobilisés hommes et femmes sont toutes et tous des diplômés du supérieur. Donc on a une division sexuée des rôles militants et de la division sexuée de l'espace qui est contre-intuitive, alors que d'ordinaire on montre que la petite bourgeoisie culturelle est moins défavorable, a des pratiques sexuellement moins différenciées que les couches les plus populaires. Bon, enfin ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'enquêtes. Ces différences peuvent, à mon sens, s'expliquer par des histoires protestataires locales très différentes. À Kasserine, où les taux de chômage sont extrêmement élevés, ils dépassent les 50% pour les diplômés comme pour les non-diplômés. Kasserine a été un des foyers de la révolution. Hein. C'est là, avec Sidi Bouzid et avec une autre ville, Tal, que les mobilisations ont été les plus massives, ont été aussi les plus réprimées, les plus violentes et les plus violentes. C'est là qu'elles ont été aussi les plus longues. Les situations révolutionnaires, à partir de décembre 2010, ont ouvert l'espace des possibles, l'espace des engagements, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Ce qu'on retrouve avec l'analyse des carrières militantes. Hein, donc, on voit que les figures charismatiques locales ont fait l'apprentissage des mobilisations collectives, surtout à partir de décembre 2010. Pas forcément, c'est ça qui est intéressant, à Kasserine même. Parfois, pour celles qui étaient étudiantes à ce moment-là, à Tunis et dans les régions du Sahel, elles l'ont fait là où elles étaient étudiantes pour soutenir les mobilisations qui avaient lieu dans leur région d'origine. Et de façon contrastée, à Sbit, là, les mobilisations ont été moins nombreuses, moins intensives aussi, si bien que l'espace de la protestation s'est beaucoup moins ouvert. Donc voilà pour ce qui est de ce portrait, de cette description un peu sommaire hein, que je fais des différences entre les deux sit-in. Cela ne signifie pas pour autant que les mobilisations et le caractère mixte de la mobilisation la nuit à Kasserine se fassent en dehors de tout contrôle social. À Kasserine, les femmes mobilisées voyaient de temps en temps un certain nombre d'hommes de leur famille venir jeter un œil, s'assurer que tout se passait un peu dans les règles, qu'il n'y avait pas de pratiques déviantes en matière de sexualité, par exemple. Mais le fait que des hommes de la famille pouvaient circuler de temps en temps, c'était aussi une manière de désamorcer les rumeurs sur le sit-in, hein, de rendre légitime non seulement la présence des femmes de leur famille, mais aussi de rendre le sit-in plus légitime parce que à partir du moment où des femmes ont commencé à y passer la nuit, les rumeurs ont circulé un peu dans la ville. ce qui me permet de dire que la prise en considération du genre s'impose dans l'analyse des mobilisations, non seulement en ce qui concerne les mobilisations qui prennent explicitement le genre pour enjeu, mais aussi celles qui, a priori, portent sur des enjeux qui lui sont étrangers, comme le droit au travail, par exemple. Ce qui est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est que à partir du moment où on introduit le genre comme catégorie d'analyse, on est amené à déconstruire des dichotomies classiques de la science politique entre les engagés et les non-engagés, par exemple, entre les réseaux formels et les réseaux informels également. Hein, dans le cas de ces hommes qui, par exemple, ne font pas le sit-in à proprement dit, mais ils viennent de temps à autre, il est important de les inclure dans le mouvement, hein, dans la mesure où ils contribuent aussi à sa légitimation. De façon symétrique, on ne peut pas non plus analyser la genèse ni le maintien de la mobilisation sans prendre en compte le fait que des femmes, des familles, des engagés restent à la maison, s'occuper donc des tâches domestiques et notamment de la préparation des repas qui, dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs à Kasserine comme à Spitl, leur incombe majoritairement. Cela amène aussi à élargir les acteurs de la répression proprement dit. On a tendance, dans les travaux de la science politique, à réduire les acteurs de la répression aux autorités policières et militaires, hein, alors que quand on prend en considération le genre, on se rend compte que ces acteurs sont beaucoup plus disséminés que cela. Donc, pour conclure... les enjeux de la prise en considération du genre dans les mobilisations collectives sont scientifiques, je viens de le dire. Là, je me situe dans la continuité d'un certain nombre de travaux, hein, donc des travaux américains, mais aussi français, sur ces questions. Les enjeux sont aussi, bon, bien évidemment, politiques, dans la mesure où la question de la mémoire révolutionnaire, la question des caractéristiques sociales, des protestataires est extrêmement importante. Parce que ce qui a eu lieu, par exemple, à partir de janvier 2011, dans les mobilisations féministes, les féministes engagées disaient constamment, répétaient très souvent qu'elles ne voulaient pas que se reproduise, par exemple, ce qui a eu lieu après la Révolution française, ni après la guerre de libération en Algérie, où, une fois les mobilisations terminées, on demande gentiment aux femmes de retourner à la maison. Hein, donc, introduire le genre comme catégorie d'analyse, rendre visible le rôle des femmes et, dans le cas du mouvement LGBT, des minorités sexuelles, pour déconstruire l'idée d'un acteur protestataire masculin, c'est nécessaire d'un point de vue méthodologique et scientifique, parce que sinon on ne peut pas comprendre la genèse et le maintien des mobilisations, mais c'est aussi important d'un point de vue politique. Je vous remercie de votre attention.